D'abord, je suis parti du jeu de la bobine. Le jeu de la bobine, il est très intéressant finalement, parce que qu'est-ce qui se passe dans ce jeu de la bobine? Il se passe qu'il y a le trauma qui est présent, enfin le trauma, la difficulté, la douleur de cette mère qui part ou qui revient sans qu'on le veuille, quoi. Donc, à l'origine, il y a quand même cette histoire de trauma. Ensuite, il y a la compulsion de répétition qui répète le trauma sous la forme du jeu de la bobine qui part en dehors du berceau puis qu'on ramène dans le berceau. Et cette compulsion de répétition, elle est là pour réparer le trauma, quoi, hein. Et qu'est-ce qui répare le trauma dans ce jeu et dans cette compulsion de répétition? Ben, c'est la symbolisation, puisque en somme, c'est pas sa mère qu'il jette en dehors du berceau et qu'il ramène, c'est un symbole, un symbole. Cette symbolisation, c'est vraiment très intéressant comme idée, et on va y revenir beaucoup, parce qu'en fait, ça met à distance adéquate, ça permet de transformer la réalité traumatique en une représentation différente qu'on va pouvoir manipuler, changer, intervenir, etc. Donc, sans cette symbolisation, ce ne serait pas envisageable. C'est-à-dire, il ne peut pas jeter sa mère, la ramener, etc. Donc, il a besoin de cette symbolisation. Et en plus, cette symbolisation, et vous allez penser au rêve éveillé, bien entendu, est aussi celle qui permet le plaisir pulsionnel, puisque là, il y a la pulsion d'emprise. Il prend sa mère, il la jette, il la ramène, etc. Et il y a une sorte de pulsion agressive là-dedans, peut-être un retournement de passif en actif. En tout cas, il y a du plaisir pulsionnel qui est lui-même symbolisé et qui se retrouve grâce au jeu. C'est la forme du jeu, quoi. Le jeu, finalement, le jeu, c'est quoi? C'est du symbole qui autorise les pulsions et qui fait le plaisir qu'on y trouve. Parce que s'il n'y avait pas du pulsionnel, il n'y aurait pas ce plaisir, quoi. Et le plaisir, il est à la base du pulsionnel. Donc, le trauma, la compulsion de répétition, la symbolisation et le plaisir pulsionnel. Ben finalement, c'est tous les éléments qu'on retrouve dans une cure. Et donc, on peut se demander pourquoi il est tellement important de symboliser. Il est important de symboliser parce que la situation initiale ne peut pas être revécue ou remise en scène à volonté, hein. Donc, il faut qu'elle soit déplacée. Cette symbolisation permet la mise à distance en évitant que l'affect soit trop violent. Et ça permet un jeu pulsionnel avec le masque, c'est-à-dire le masque nécessaire. Je pense par exemple à une personne qui est très liée à sa mère dans la réalité actuelle de l'adulte qu'elle est, et dont les rêves éveillés sont d'être possédée par une araignée terrifiante à laquelle on ne peut rien faire, c'est que de la peur, quoi. En fait, on peut espérer qu'elle arrive dans ses rêves éveillés à casser les pattes de cette araignée et à faire quelque chose qui va la libérer. Elle pourrait se permettre de le faire, et probablement elle va y arriver, elle pourrait se permettre de le faire dans le rêve éveillé, donc d'éprouver une pulsion absolument interdite, qui est la violence, le rejet, la destructivité envers cette mère envahissante, alors qu'elle ne pourrait absolument pas du tout se permettre de le reconnaître au niveau conscient par rapport à cette mère qu'elle aime tant et dont elle s'occupe activement. Ben, la symbolisation permet ça, c'est-à-dire que c'est dans un jeu symbolique que je peux faire des expériences pulsionnelles. Parce que c'est suffisamment masqué. Et en fait, c'est à la fois du vrai et du faux, quoi. C'est à la fois du vrai en sens que c'est véritablement les gestes et les affects qu'on a besoin de ressentir qui sont présents pour libérer par rapport au trauma dont on est porteur. Et en même temps, c'est du faux en sens que c'est sur une scène symbolique à distance. Donc, je peux me permettre, quoi. Autrement dit, finalement, la cure analytique, c'est le jeu de la bobine. ni plus ni moins. Alors, pourquoi la symbolisation? Parce qu'on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas le faire avec la personne en vrai. Et donc, on est obligé de le faire à distance. Et pourquoi la mise en œuvre des pulsions à l'intérieur de cette symbolisation? Parce que sans ces pulsions, rien ne pourrait se faire. Ça resterait une espèce de jeu intellectuel ou de rêverie, mais qui ne serait pas véritablement transformatrice. Donc, la présence des pulsions est nécessaire, pulsions agressives, pulsions sexuelles, qu'on retrouve beaucoup dans les rêves éveillés. La présence de ces pulsions est nécessaire parce que sans elles, rien ne pourrait se faire. Et parce que leur présence assure la libidinisation de ce qui est en train de se vivre. C'est-à-dire, c'est pas de l'intellect, c'est du vécu, c'est du vécu chargé, quoi, érotique. Agressif, c'est quelque chose qui est vraiment libidinalisé. Et cette libidinisation de la pulsion qui est en œuvre permet le plaisir du jeu. En fait, le plaisir du jeu, c'est quoi? C'est ça. C'est comme le plaisir des blagues. C'est la pulsion qui se manifeste d'une façon suffisamment masquée pour qu'on puisse la vivre à fond et que ça donne le plaisir. Alors, comment ça se joue ensuite en analyse? Ben, ça se joue parce qu'on pourrait dire, ben, après tout, l'enfant, il est capable, là, de restaurer par lui-même les situations traumatiques dont il est porteur, grâce à cette symbolisation, à la pulsion et au jeu, sans qu'il y ait personne d'autre qui lui le fasse travailler là-dessus. Ok, mais c'est parce que c'est le bébé qu'il est encore tout proche de ça, qu'il n'a pas besoin de régresser pour retrouver ça. Alors que, à l'âge adulte, il y a la nécessité, pour pouvoir expérimenter ce genre de choses, d'aller régresser vers la partie de nous-mêmes qui est porteuse de tout ça, et pas simplement se contenter de symboliser à travers des répétitions multiples sous une forme inconsciente. Pour que ça puisse être travaillé et restauré, il faut régresser à l'intérieur d'une relation. Donc, le bébé du jeu de la bobine peut le faire seul, mais l'adulte, pour faire ce jeu de la bobine libérateur, il a besoin de le faire à l'intérieur d'une relation qui permettra la régression. Alors, évidemment, on pense tout de suite au côté jeu qu'il y a dans le rêve éveillé. Parce que même si celui-ci fait vivre des traumatismes, des choses qui nous font peur, qui sont terribles, il y a quand même le plaisir de les créer et le plaisir de jouer à trouver à l'intérieur de ce rêve éveillé l'expression pulsionnelle qui nous libérera. Donc du coup, retrouver ainsi le chemin de la symbolisation à l'intérieur de nous grâce au rêve éveillé suppose que ça soit possible, on va voir comment, et aussi qu'il y ait du plaisir du jeu créatif. Parce que si on fait un rêve éveillé et qu'on n'investit pas le plaisir qu'il y a à jouer à ça, ben rapidement, on va décrocher du rêve éveillé. Et donc, il faut que le patient découvre que c'est un jeu intéressant. Au fond, le rêve éveillé, qui n'est pas un rêve, si ce n'est pas un rêve éveillé dirigé, ce qui est le cas pour nous, ce n'est pas un rêve éveillé dirigé, eh bien, c'est du playing, c'est pas du game, c'est du playing, hein, suivant les mots de Winnicott, c'est-à-dire, on ne sait pas comment ça va se goupiller, il y a une espèce de surprise, d'inattendu, qui fait que c'est du playing. Donc, pour que ces conditions soient mises en place, il faut, ben, ce que j'ai déjà expliqué, qu'à mon point de vue, il faut que le rêve éveillé soit repéré comme étant un tiers extérieur, un médium malléable, pour reprendre les mots de Roussillon, qui soit à disposition. Mais pour ça, pour qu'il soit à disposition, il faut qu'il se différencie du reste. D'où le fait que, dans notre pratique à nous, en tout cas, on insiste sur la nécessité qu'il y ait un début et une fin, pour que ce soit repéré comme étant un début et une fin. Ça, c'est la condition extérieure. Mais la condition intérieure, c'est que, en fait, le psychanalyste se sente dans un jeu lui aussi. Il faut que ça soit un jeu à deux. Il faut qu'il y ait quelque chose du jeu dans la relation. entre vous et votre patient. Et pour que ça soit du jeu, avec donc une libidinisation inévitable, puisque du jeu, c'est, il y a du plaisir pulsionnel qui joue dans le jeu, pour que ça soit du jeu, il faut deux choses. Il faut d'une part que le psy aime jouer, c'est-à-dire qu'il ait découvert la possibilité de jouer dans son travail personnel. Et en l'occurrence, ce qui nous facilite, nous, c'est le travail métaphorique. L'interprétation métaphorique, c'est une sorte de jeu. On se parle à mi-mot, à mi-voix, presque comme une sorte de mot d'esprit. L'interprétation métaphorique, c'est du jeu. Et elle a une grosse différence avec une interprétation plus intellectuelle, qui serait terme à terme, quoi. Oui, c'est avec votre mère qu'il s'est passé ça, et donc maintenant vous revivez ça, etc. Qui, là, prend rapidement une tournure intellectuelle, quoi. C'est le côté jeu, pulsion, le côté jeu de la bobine disparaît. Ça devient un travail. Il y a un gros risque avec l'interprétation qui n'a pas le support de l'interprétation métaphorique telle que nous on le fait, c'est que ça devienne un travail intellectuel. Or, un travail intellectuel, ça n'amène rien. Au contraire, ça amène un renforcement des défenses. J'ai tout compris. Ah oui, j'ai compris. D'accord, bon, c'est ça. À partir du moment où j'ai une interprétation intellectuelle relativement dévitalisée, qui n'a pas permis cette espèce de jouissance pulsionnelle du eureka et puis de quelque chose qui est bouleversant mais en même temps passionnant, etc., bah, du coup, ça ne change pas grand-chose, quoi. Alors, pour que ça soit du jeu à deux et pour que l'interprétation métaphorique et la relation soient sous le signe du jeu, eh bien, ça suppose une certaine libidinisation. Et donc, que le contre-transfert ne soit pas oblitéré par du mental décollé. Hein, je vous l'ai souvent dit, c'est-à-dire que si vous allez trop vite vers une interprétation mentale de ce qui est en train de se passer, vous coupez quelque chose. Et puis, c'est même pas du jeu, c'est même pas du plaisir. Ça peut l'être une espèce de jeu du puzzle, quoi, où on met les pièces les unes à côté des autres et où il y a du plaisir. Mais c'est pas le squiggle, quoi. Donc, en fait, cette libidinisation, ça suppose quelque chose de chargé de vous vers le patient ou la patiente, de charger érotiquement ou agressivement, qui rejoint d'ailleurs ce qui se passe dans la relation entre la mère et le bébé. Parce qu'une mère qui serait que fonctionnelle et qui serait avec très peu de pulsions, ben, ce serait pas une bonne mère d'une certaine manière. Et si vous êtes un analyste très fonctionnel, efficace, qui comprend tout bien, mais où il y a finalement peu de pulsions et peu de vitalité dans votre relation avec la personne, comme on le voit chez un certain nombre d'analystes, eh bien, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Ça peut être comme une sorte de création d'un faux self ou d'une sorte de suggestion. On va croire, on va adhérer à ça, mais finalement, c'est pas trouvé. C'est pas trouvé dans le plaisir et dans l'intensité de l'aventure, quoi. Donc le travail du psychanalyste préalable à toute cure, pour avoir retrouvé le lien de personnalisation dont parle Winnicott, dont je vous rappelle que c'est comment le mental s'est installé dans le corps, dans les affects, dans les sensations, dans les pulsions, et que les deux sont reliés étroitement. Sinon, si on a une faible personnalisation, c'est-à-dire avec un mental qui tourne, mais qui n'est pas relié suffisamment aux sensations, aux affects et aux émotions, eh ben, on est à nouveau, d'une certaine manière, on est dépersonnalisé. Ou plus exactement, on est dans le personnage, dans le faux self, dans la compréhension intellectuelle, etc. Donc il faut que vous ayez travaillé sur le lien de personnalisation, c'est-à-dire que mon mental est au service de ce qui se passe en moi, qui se dit sous une forme vague, non digitale, de sensations, d'émotions, d'affects, de souvenirs, etc., hein, qu'on fait tout le courant de la psychanalyse interactive, genre Ogden et compagnie. Et aussi une aisance avec l'éros et plus largement avec les plaisirs pulsionnels. Autrement dit, il y a un travail à faire préalable à vos cures que vous avez dû faire ou que vous êtes en train de faire sur l'aisance avec ça. Et c'est quelque chose qui est un peu délicat. Parce que, par exemple, on pourrait dire que quand la mère couvre son enfant de baisers et dit « mais je le mangerai, ce petit, il est beau, il est délicieux », c'est quelque chose de pulsionnel. C'est de l'agressivité et de la sexualité. Suffisamment sublimé, mais n'empêche que c'est ça qui est très intense. Et qui, d'ailleurs, souvent se sent au niveau du couple, parce que du coup, il y a toute une part de sa vie pulsionnelle qui est dérivée sur le bébé, et dont le mari se plaint parce que, bon, il n'y a plus que lui qui compte, etc. N'empêche que il y a eu des écrits dans Dieu intéressants là-dessus, sur l'intensité et la nécessité du fait qu'il y ait quelque chose de pulsionnel. Mais à ce moment-là, on est dans une frontière très étroite entre l'incestuel et le nécessaire pulsionnel. Parce que si le pulsionnel n'est pas là, il y a quelque chose qui manque au niveau de l'injection de la vitalité de base chez le bébé. Mais s'il est trop là, ça devient un enfermement dans quelque chose qui dépasse les capacités de l'enfant, qui devient problématique. Là, on retrouve ça exactement en analyse. C'est-à-dire, si vous êtes trop séduit ou trop agressif intérieurement, eh ben, c'est dangereux. Une psychanalyse de séduction mutuelle, ça peut déboucher sur des passages à l'acte. Bon, ça c'est bien connu. Ou ça peut déboucher sur une analyse interminable dans laquelle, finalement, c'est comme une sorte de folie à deux, dans laquelle on se séduit mutuellement, mais dans laquelle rien ne change. Ça, c'est un des risques. Mais l'autre risque, ce serait que, justement, ça soit trop sec, trop intellectuel, trop on fait un travail, on comprend, etc., et que, du coup, toute l'expression de base de cette vitalité qui cherche à retrouver ses racines se perde. Donc il y a une voie étroite entre trop de libidinisation et pas assez. Trop humide ou trop sec. De quel côté vous avez tendance à vous situer spontanément? Ça c'est une question intéressante aussi. Parce qu'il y a des analystes, on sent que c'est pas dans l'humide qu'on fait, c'est dans le carré, l'intellect, la compréhension, etc. Et d'autres avec lesquels on sent que c'est se répandre au contraire. Bon, là vraiment, il faut que vous connaissiez votre style, qui va avec votre façon de comprendre la relation et la pulsion dans la relation, et qu'ensuite vous travaillez là-dessus. Alors, donc, l'idée, c'est qu'il faut qu'il y ait du plaisir à jouer ensemble. Et du plaisir, ça suppose de la pulsion. Mais ça suppose aussi de la symbolisation qui garantira que la pulsion se pose au bon endroit et pas dans du transfert qui va pousser au passage à l'acte. Alors, ça renvoie aussi à la question du plaisir et de la satisfaction. Vous savez que j'avais fait un topo il y a déjà quelques années sur le plaisir et la satisfaction, vous l'avez peut-être lu ou vu, dans lequel la pulsion peut se décharger dans le plaisir sans forcément qu'il y ait de la satisfaction. C'est comme le bébé qui est nourri au sein. S'il est nourri à la fois du lait et à la fois de l'amour maternel et du désir de la mère pour cet enfant, une fois qu'il est nourri, une fois qu'il est repu, une fois que le plaisir est terminé, eh bien ce plaisir s'investit intérieurement comme une satisfaction. La satisfaction, c'est du plaisir plus l'amour et le lien avec l'autre. Mais il peut y avoir du plaisir sans ça. Et à ce moment-là, ça donne un plaisir sec, un plaisir, plaisir de la décharge pulsionnelle, qui n'est pas structurant, qui n'est pas vraiment satisfaisant. C'est le proverbe latin que vous connaissez peut-être, « post coitum omne animal triste ». Bah, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On n'est pas triste après avoir... Ben, si, ça peut, ça peut. Ça peut quand c'est uniquement une décharge pulsionnelle du plaisir sans qu'il y ait eu la satisfaction d'un lien libidinal, amoureux, satisfaisant en même temps. Alors, peut-être que j'exagère un peu en vous disant qu'il y a du plaisir à interpréter qui peut ressembler à de la masturbation, c'est-à-dire vous interprétez pour vous-même, pour votre plaisir, pour être brillant, pour être intellectuel, etc., qui va donner chez le patient plus tard, quand il aura fini sa cure, ce qu'on appelle le caractère psychanalytique, c'est-à-dire qu'il aura tout compris mais rien changé. Et donc, si votre plaisir, c'est que celui de comprendre et de bien mettre en place les choses, il y a un risque. C'est un risque que cette cure ne soit pas satisfaisante. Et peut-être qu'il faut que le plaisir soit accompagné du jeu dangereux que représente la libidinisation du lien avec les patients ou les patientes et l'intensité de vie qui se passe à ce moment-là, mais qui du coup est un jeu dangereux, qui doit être contenu par, bien sûr, une éthique personnelle, mais pas seulement, par aussi la compréhension du fait qu'on ne peut faire les choses que sur un mode symbolique. La symbolisation est très importante. Donc il s'agit de créer les conditions pour que le patient puisse jouer seul en présence. C'est ça qui est bien, parce que du coup, s'il découvre ça, il peut faire l'expérience du seul en présence. Alors, seul en présence, ça c'est capital, parce que vous savez, le seul en présence, c'est le gamin qui joue tout seul, avec ses affaires, et c'est lui qui joue, et n'empêche qu'il ne peut jouer que parce qu'il y a la présence silencieuse de la mère derrière. Moi, je trouve que c'est une des bonnes définitions de ce qui représenterait l'appropriation du travail psychanalytique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que le patient ou la patiente sache jouer tout seul, et en fait, il n'est pas seul. Mais il peut jouer seul parce qu'il est en présence. Mais ça suppose que vous soyez relativement absent. Une fois que la personne est capable de jouer, et de jouer en présence, de jouer « Ah oui, tiens, ce rêve éveillé, tiens, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ?» etc. Vous relancez, bien entendu, parce que vous montrez votre présence. Mais à minima, quelque part, si la mère est en train de faire son repassage et que le gamin est en train de jouer à côté avec ses petites voitures, il n'y a pas intérêt à ce qu'elle soit trop présente. Est-ce qu'elle vienne intervenir? Est-ce qu'elle... « Ah, oh, mais tu ne devrais pas prendre la bagnole comme ça » ou etc. Donc, il y a intérêt à ce qu'elle soit là, voilà, comme un fond nécessaire et indispensable, mais qui puisse expérimenter le seul en présence. Pour que ça puisse se mettre en place, tu vois, il faut qu'il y ait vraiment des conditions sur lesquelles on va réfléchir ensemble, mais qui sont éviter l'influence dans l'interaction. Or, l'influence, elle est presque inévitablement liée à la séduction. Or, la séduction, elle est présente implicitement dans les libidinisations du lien. Donc, vous voyez, on est vraiment sur une voie étroite. Il faut qu'il y ait de la libidinisation. Cette libidinisation inclut une certaine séduction, non volontariste, mais inclut une certaine séduction. Et cette séduction risque d'amener la suggestion. Et donc, le fait que la personne gobe ce que vous lui dites parce que vous êtes tellement brillant, tellement séduisant, etc., et finalement ne se l'approprie pas. Donc là, on arrive sur l'idée qu'il y a quelque chose d'une certaine distance, d'un certain repli qui est nécessaire et qui en même temps ne doit pas être à aucun moment une froideur ou un abandon, mais plutôt... Voilà, on est là pour jouer autrement. Donc il s'agit de créer les conditions pour que le patient puisse jouer seul en présence. Ce qui va lui permettre dans un temps ultérieur de sortir de l'influence de vous, mais aussi de l'influence de l'autre d'une façon générale dans l'interaction. Donc y compris des influences historiques, parce que malgré tout, on a été bâti avec l'autre, en nous, au départ, c'est l'autre en nous. Et puis, comment est-ce qu'on a réussi à sortir de ça? À vrai dire, c'est le fruit déjà d'une demi-vie, hein, fous-moi les 40 premières années. Mais comment on a réussi à en sortir? Eh bien, on réussit à en sortir principalement par deux choses. Être capable de dire non. Ça parle à quelques-uns d'entre eux. De dire non. Et il faut que votre patient ou votre patiente soit capable de vous dire non, y compris sur vos idées brillantes. Et ce n'est pas forcément un non définitif. Freud en a pas mal parlé, ça, sur la fin de sa vie, construction en analyse. C'est-à-dire que le nom est à respecter, mais ça ne veut pas dire que ça va être un nom définitif. Je compare ça, je vous l'ai déjà dit, lors de mon topo sur Eros et Thanatos, à l'agressivité nécessaire pour détruire ce qui est amené par l'autre et pour pouvoir ensuite se l'approprier et se le reconstruire. Comme la pomme qu'on va croquer en morceaux, et c'est seulement si elle est en morceaux et qu'on l'avale, et qu'on la digère, qu'on la détruise, qu'on la transforme, que ça devient notre propre chair. Ben, y a quelque chose comme ça qui est nécessaire dans le travail analytique. C'est-à-dire, si vous ne voulez pas construire du faux self où la personne va intégrer des idées intéressantes de votre part au lieu, enfin, pas les intégrer, les gober, au lieu de les intégrer, de les transformer en soi-même, il faut que vous puissiez supporter qu'il va y avoir des trucs qui ne vont pas être acceptés tout de suite et qui vont devoir prendre du temps et être mis à leur sauce. L'interprétation transmise, finalement, devient à sa sauce. Ce que vous avez souvent l'expérience de voir. Il s'est dit quelque chose, et puis finalement, deux ou trois séances après, on voit que la personne en a fait quelque chose à sa sauce. Eh bien, c'est très bien. Ça, c'est la première chose. Comment on réussit à transformer l'autre en quelque chose de nous ? Il faut détruire l'autre en nous pour pouvoir le digérer et retrouver cet autre comme une partie de nous-mêmes. Ça, c'est pas évident, hein. Faut du temps. Faut donc le nom et il faut l'autre chose qui est la symbolisation. La symbolisation permet de mettre un autre accessible, visible, utilisable, manipulable, qu'on va détruire éventuellement, on va casser les pattes de l'araignée, on va faire ci, on va faire ça. Et ben du coup, on peut le faire. Parce que c'est symbolisé, et la symbolisation amène la bonne distance. C'est les deux choses qui permettent ça. Et ça, c'est capital pour nous, mais là j'ai pas le temps de l'élaborer assez, mais je crois qu'il faudra qu'on y réfléchisse encore, parce que c'est vraiment ce qui permet l'appropriation. Or, la clé d'une analyse mutative, c'est l'appropriation, et pas une sorte de caractère analytique qu'on a intégrer comme ça à partir de... Voilà, alors les conditions de l'alliance c'est quoi? C'est du côté du patient le transfert de base, c'est-à-dire un peu un transfert archaïque inévitable. Si vous n'êtes pas un peu la bonne mère primaire, ben, il ne va pas y avoir le nécessaire comme une espèce de fond de lien. Et de votre côté, un contre-transfert en identification, en empathie, un contre-transfert qui permettra, du fait d'une identification narcissique, de percevoir complètement ce qui se passe chez l'autre. Mais il faut que ce contre-transfert soit suffisamment libidinalisé, pas seulement le contre-transfert, c'est peut-être pas le contre-transfert, c'est que votre position interne d'analyste soit suffisamment libidinalisée. Et que du coup, ça puisse donner un accordage, quoi. Avec un respect du bon rythme et de la bonne distance. En fait, tous ces points sont indépendants du contenu. Ils sont nécessaires comme mise en place pour que l'espace de jeu puisse avoir lieu, et quel que soit le contenu que la personne amène. Donc, il faut d'abord assurer la contenance. Et pour nous, il y a un triple cadre. C'est le cadre intérieur de l'analyste qui est prêt, le cadre extérieur des séances régulières avec une durée fixe, et le troisième cadre qui est à l'intérieur de ces séances, le temps du rêve éveillé. Une fois cette contenance assurée, la personne peut se permettre de ressaisir et de revivre les expériences, d'abord sur un mode mineur, et parfois en revenant plusieurs fois sur ce qui doit être vécu, pour que ça soit terminé et reterminé et reterminé et re-reterminé jusqu'à ce que ça soit vraiment terminé. Donc il faut vous attendre aussi à ça, quoi. Et le troisième moment, c'est lors du travail métaphorique ultérieur, parce que là, c'est là où peut-être la personne va pouvoir s'en approcher à la bonne distance et s'en approprier le contenu. Les conditions pour ça, c'est que le rêve éveillé soit conçu comme un lieu de paradoxe. Mais ce n'est pas le rêve éveillé, c'est la symbolisation qui est un lieu de paradoxe. C'est-à-dire que c'est trouvé, c'est-à-dire que je n'ai pas choisi ce que ça arrive comme ça dans le rêve éveillé, et en même temps c'est créé, puisque c'est moi qui l'ai créé, et que ça dit quelque chose de moi. Donc je ne sais jamais vraiment si c'est trouvé, si c'est créé, si c'est du fait qu'on a été ensemble ou pas, puisque le rêve éveillé, c'est aussi à deux et tout seul. C'est parce qu'on est à deux que je peux le faire tout seul. Donc c'est seul en présence, quelque part. Le rêve éveillé, c'est l'hallucination, et en même temps, c'est du réel. Donc c'est truffé de paradoxes, et c'est justement ce qui permet de sortir de trucs simplistes ou de l'emprise de l'autre à l'intérieur de nous. Ouais, c'est une grande question clinique, hein, cette histoire de s'approprier, de trouver en soi. Alors, qu'est-ce que j'avais noté encore? Bon, bref. Bon. Alors, en conclusion, l'espace de symbolisation et ses paradoxes permettra le passage sécurisant vers l'appropriation de ce qui était d'abord venu de l'autre. Je vous redis la phrase. L'espace de symbolisation et ses paradoxes, pensez au jeu de la bobine, hein, c'est paradoxalement l'autre et c'est pas l'autre, permettra le passage sécurisant vers l'appropriation de ce qui était d'abord venu de l'autre. Autrement dit, je retrouve l'autre sur une scène symbolique, je transforme plein de choses sur cette scène symbolique, c'est encore l'autre et en même temps c'est déjà moi, et je m'approprie ce que j'ai vécu dans mes rêves éveillés comme étant moi, alors qu'en fait le rêve éveillé est truffé de l'autre aussi, et en particulier il est truffé du fait que l'autre était présent pour que je puisse le faire. Et bien ça c'est quand même capital, quoi. Donc en annexe, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, les deux points pour faire de l'autre à l'intérieur de soi, c'est le nom et la symbolisation. En annexe de la symbolisation, on peut comprendre pourquoi il est tellement important dans notre pratique de donner sa place au négatif. Hein? Et que dans le transfert, il puisse y avoir de l'agressivité reconnue, jouée, acceptée, exprimée. Le nom garantit le temps d'appropriation. Il garantit la destruction du contenu en symbole qui permettra la digestion ultérieure qui transformera ce contenu en matière personnelle, confirmant topo sur digérer une pomme. En conclusion définitive, pour nous, on a une chance, je crois qu'on sous-estime, on n'imagine même pas la chance qu'on a d'avoir l'importance capitale de se réveiller. Parce que beaucoup d'écrits psychanalytiques cherchent ce médium malléable qui va être le tir, qui va permettre d'enfin trouver la juste distance avec ce qui doit être vu et perçu et travaillé. Donc l'importance capitale du rêve éveillé, l'importance capitale de la gestion correcte de l'agressivité du patient, et surtout pas que ça baigne dans l'huile, quoi. Il faut qu'il puisse dire les trucs qui... et les expérimenter, qu'ils puissent expérimenter le fameux paradoxe du détruit-retrouvé. Je l'ai détruit, mais non, je l'ai retrouvé. En fait, ça va ensemble. Et puis, que pour le troisième point, c'est que pour qu'une cure soit vivante, il faut qu'elle soit une aventure humaine dans laquelle vous allez être impliqué par votre pulsion, votre libidinisation, vos propres tripes. Sinon, ça va être la psychanalyse à l'américaine, ce qu'on a souvent reproché, quoi, qui était une sorte d'interprétation intellectuelle terme à terme, etc. Voilà, on arrête là.